RFI, grand reportage.
Cette fois, c'était des policiers. La première fois, des bandits armés, c'était quand on est arrivé dans le pays. Comme ils nous ont tout volé, on a dû passer un an au Mexique.
Ils se moquent qu'on soit avec des enfants. Pourtant, je leur ai dit, regardez dans quel état je suis, regardez mon ventre, je vais avoir un bébé.
Aux États-Unis, la campagne pour les élections générales de novembre prochain a commencé. Le camp républicain et le camp démocrate échangent coup pour coup. Comme à chaque scrutin, le bilan économique du président sortant est critiqué par ses adversaires, mais rien n'occupe autant de place que la question de l'immigration. La gestion de la frontière avec le Mexique est jugée calamiteuse par Donald Trump et son parti, qui en ont fait un thème central de la campagne. Alors, comment cela est-il vécu par ceux qui côtoient au quotidien cette frontière ? États-Unis-Mexique, la frontière éternelle en jeu électoral. C'est un grand reportage d'Abla Jounaïdi et Julien Boileau.
Poste frontière de Nogales, au sud de l'Arizona. L'hiver dernier, piétons et automobiles se massaient plus que jamais au pied des portiques. L'autre point de passage, Lukeville, avait été fermé par les autorités. En cause, selon Washington, un afflux record de migrants mobilisant les gardes-frontières. L'effet de la fermeture de Lukeville a été immédiat ici à Nogales. Adrian travaille pour une entreprise de transport par minibus.
Je suis né aux États-Unis et j'ai grandi au Mexique. Je travaille aux États-Unis et je vis au Mexique. Ça permet de gagner sa vie correctement. Lorsqu'ils ont fermé le passage ici, les files d'attente se sont rallongées de façon impressionnante. Il fallait attendre des heures. Un vrai chaos. Je crois que fermer la frontière, ça ne sert à rien. Si les gens veulent passer, ça ne les arrêtera pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé sous Donald Trump avec le mur. Les Mexicains ont construit des échelles plus hautes et des tunnels plus profonds.
En décembre dernier, la Customs and Border Protection, l'agence fédérale de protection des frontières, rapportait 250 000 rencontres avec des migrants, un record pour un seul mois. Des rencontres, c'est dans le jargon de l'agence, une interaction avec un non-citoyen américain. Parmi ces migrants, une diversité géographique inédite. Arrêté à la frontière, Hassan a été relâché à Tucson, dans l'Arizona. Le temps que sa demande d'asile soit examinée, son parcours est aussi long que surprenant.
On va se démarrer au Sénégal, Maroc, Espagne, Salvador, Nicaragua. J'ai une chance de venir ici sans un problème.
Comme nombre de ses compatriotes, Hassan a fui la répression des manifestations anti-gouvernementales de 2023 dans son pays. L'an dernier, l'Agence fédérale de protection des frontières a rapporté 13 526 rencontres avec des Sénégalais. Ces migrants, certains élus de l'Arizona disent vouloir en contrôler l'afflux. Fin février, à Phoenix, les Républicains qui dominent le Sénat local ont présenté plusieurs projets de loi. L'un d'eux faisait du passage illégal de la frontière un crime d'État, autorisant les fermiers à tuer les contrevenants qui fouleraient leurs terres. Intitulée la loi sur l'invasion de l'Arizona, elle est inspirée d'initiatives du même genre au Texas et fait enrager les organisations de défense des droits des Latinos comme Lucha. Gina Mendez dirige l'organisation.
Ces histoires d'invasion de migrants, c'est tout simplement faux. Il y a une déconnexion immense. Ce qui se passe, en fait, c'est que les gens ne peuvent pas rester du côté mexicain. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de ces personnes côté mexicain vivaient en réalité ici, côté américain, et attendaient leur régularisation. Elles ont été expulsées à cause des lois passées en Arizona il y a quelques années, comme la SB 1070. Parmi ces gens, il y a des enfants qui sont nés ici à Phoenix et qui vivent maintenant juste de l'autre côté de la frontière. Ils veulent poursuivre leur éducation dans leur pays de naissance, ici aux États-Unis. Et ce sont elles les cibles de ces législations qu'on cherche à faire passer aujourd'hui.
C'est un peu illégal.
Les membres de l'organisation Lucha en sont certains. Comme en 2010, lorsqu'une loi visant la communauté latino a été adoptée en pleine campagne électorale, le camp républicain entend remettre le couvert en 2024 pour affaiblir Joe Biden. À Yuma, une ville frontalière plus à l'ouest, l'agriculture dépend depuis des décennies des travailleurs mexicains. Avec ou sans permis de travail, on les croise dans les rues de Yuma, la capitale mondiale de la laitue Iceberg, celle qui garnit les hamburgers. Le sujet semble délicat aux fermiers qui les emploient. Plusieurs ont poliment décliné nos demandes d'interview. Sur les hauteurs de la ville, Jonathan Lines, un élu local, dément que la crise migratoire ne soit qu'une « red meat », de la viande rouge, comme on dit aux États-Unis, un sujet électoraliste pour son camp, le Parti républicain. Pourtant, à l'écouter parler, on est saisi par l'amalgame permanent qu'il entretient entre l'immigration et la criminalité.
Is it red meat? No, I don't think it's red meat. It's one of the top two besides the economy.
Vous me demandez si on parle de ce sujet juste pour attirer les électeurs? Non. L'immigration clandestine arrive en tête des préoccupations quotidiennes des Américains, et cela, quel que soit leur parti politique. Il ne se passe pas un jour sans que dans le journal, vous voyez un étranger en situation irrégulière incarcéré pour un meurtre ou pour un viol. Ces gens pensaient trouver quelque chose pour eux ici aux États-Unis, mais Biden les a laissés tomber et nos communautés ne peuvent tout simplement pas s'en occuper. Les gens font déjà face à un pouvoir d'achat réduit de 25% depuis que Biden est au pouvoir. Voilà deux échecs cuisants à mettre au compte de son administration.
Au Congrès à Washington, aucun accord bipartisan n'a été trouvé sur le renforcement de la sécurité à la frontière sud. Voilà près de 40 ans que le pays ne s'est pas doté d'une réforme globale sur l'immigration. Au fil des années, en revanche, le territoire le long de la frontière s'est progressivement hérissé de tours de contrôle, équipés de caméras, de senseurs sophistiqués et de barrières. Nous cheminons le long du mur bâti par l'administration Trump.
Un jour, on est tombé sur une équipe de techniciens qui réparait une partie du mur qui avait été sectionné. Il y en avait vraiment beaucoup le long de la frontière, tellement que c'est presque dérisoire de tout faire réparer. Il y a toujours un endroit cassé. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de cette réalité. Ils imaginent que le mur est un outil très efficace car il est long et qu'il a l'air solide.
Duggan Meyer est chercheur en géographie à l'Université d'Arizona. Ce mur qui s'étend du Texas à la Californie, il le connaît bien. Il arpente la zone, l'une des plus traversées et l'une des plus sécurisées au monde depuis des années avec le photographe Colter Thomas. Un jour, ils font une découverte.
L'équipe était escortée par deux officiers de sécurité privés, avec chacun un véhicule. L'une des voitures avait sa plaque d'immatriculation noircie, ce qui est interdit dans l'État. Je ne vois même pas comment c'est possible. L'autre voiture portait un sticker d'une milice anti-gouvernementale, les Free Percenters. Elle a été classée organisation terroriste par le Canada. C'est étrange, cette collusion entre des groupes de sécurité et des milices privées ou des individus qui leur sont rattachés. On est inquiet pour toutes les organisations humanitaires qui vont à la rencontre des migrants dans le désert pour leur fournir de l'aide. Je trouve que c'est effrayant, car ils sont de plus en plus menacés à cause de cela.
La violence de ces groupes, le village d'Arivaca l'a découverte un jour avec effroi. À un jet de la frontière, la petite communauté, peuplée d'amoureux de la nature et d'anciens hippies, a gardé les stigmates d'un épisode survenu le 30 mai 2009. Ken Buchanan, grande barbe et joint de cannabis à la main, nous raconte.
Une milice privée avait décidé qu'elle allait se saisir du problème des migrants et pour cela, elle avait besoin d'argent. Alors, ses membres ont fait irruption chez un prétendu dealer de drogue ici, qui ne l'était pas en réalité. Ils l'ont tué, de même que sa femme et sa fille. Tous ont été arrêtés et jugés. Depuis lors, les gens sont divisés. Mais comme dans toute une communauté humaine, certains laisseraient un migrant mourir de soif, d'autres lui donneraient un verre d'eau. Certains ont du cœur, d'autres sont emplis de haine. À vrai dire, je suis fatigué de toute cette merde. C'est toujours les mêmes marchands de peur que j'ai entendus toute ma vie. On ne pourrait pas tout simplement s'aimer comme des frères et des sœurs que nous sommes, ou au moins s'ignorer. Plus je vieillis, plus je deviens cynique. Vous savez, j'ai tout fait pour ne pas le devenir, pourtant.
You know, if that makes sense to you, you're better than I am. It doesn't make sense to me.
Nous laissons Ken Buchanan à ses doutes et reprenons la route direction le mur. Fernando Quiroz travaille pour l'ONG Arizona California Humanitarian Coalition. C'est avec lui que nous longeons la barrière frontalière. Lui aussi a vu sévir les membres des milices d'extrême droite.
Oui, ils viennent ici. Ils menacent, armés jusqu'aux dents et en tenue de camouflage, comme si une guerre avait lieu à la frontière. J'essaie de ne pas les provoquer, ils ont leur point de vue, je ne le partage pas et vice-versa. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je suis, c'est ma foi et mon éducation. C'est l'humanité et ce qu'il y a de juste à faire. En ce moment, j'attends l'autorisation d'aller opérer du côté californien pour déposer de l'eau. C'est pour bientôt, j'espère, parce que l'été arrive et les chaleurs ici sont démentielles. Pas loin d'ici, dans le désert, une dizaine de personnes sont mortes l'an dernier. Voilà pourquoi on demande des autorisations d'accéder à la zone pour opérer.
Loin d'être parfaitement continu, l'ouvrage en acier disparaît parfois sur des centaines de mètres. À quoi sert vraiment le mur alors? Pour Fernando, c'est surtout un outil de communication politique.
En général, les autorités viennent chercher, disons, une centaine de personnes par jour à la frontière. C'est rapidement le chaos quand ce travail n'est plus fait pendant plusieurs jours. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs endroits où on a vu des milliers de personnes amassées le long du mur. C'est là que les médias viennent et font leurs images, sans voir ce qui a mené à cette situation. Ah, tenez, ici, c'est un autre endroit où je laisse de l'eau et une couverture. Je me souviens l'an dernier, quand le titre 42 a pris fin. Vous savez, la mesure sanitaire qui avait été mise en place sous le Covid pour empêcher les migrants de venir. Eh bien, dans cette zone, on a vu débarquer une quinzaine de grands médias avec des caméras et ils sont restés 3 jours avant et 3 jours après la date butoir. Mais il n'y avait aucun afflux, aucun, parce que la mesure n'affectait que certains pays. Honduras, Salvador, Nicaragua notamment. Quand il y a afflux, c'est imprévisible. Ça dépend de la situation dans les différents pays du monde entier. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le monde. Il y a tant de choses qui poussent les gens à quitter leur pays. Que les Américains le veuillent ou non, le rêve américain a encore du sens pour ces gens-là. Pour eux, il y aura toujours une chance, un espoir. Et c'est plus grand que de mettre sa vie en danger, que de souffrir le long du chemin. Les gens continuent de venir malgré ce mur qui a coûté Dieu sait combien à l'administration Trump.
Nous traversons la barrière. De l'autre côté, ce n'est pas le Mexique, c'est encore le territoire américain. À notre approche, des ombres courent se réfugier contre la barrière. Une famille, 2 femmes et 3 enfants, en panique. Fernando les rassure.
Ça y est, vous êtes aux États-Unis.
Surtout, Fernando leur donne des informations, une denrée précieuse sur ce territoire de la frontière où règnent les rumeurs.
Très important. Quand les services de l'immigration vont arriver, ils vont vous donner un petit sac en plastique blanc. C'est tout ce que vous aurez le droit de transporter par la suite. Vos sacs à dos, il faudra les jeter. Il faudra mettre tout ce qui est important dans le sac plastique. L'argent, le téléphone, le chargeur, les photos et passeports. Et puis, très important aussi, il faut que vous ayez une adresse d'arrivée. Vous êtes une famille ?
Vous êtes famille, avec qui vous êtes ?
Oui, on est 2 sœurs, ce sont nos enfants.
Il faudra leur dire la raison de votre départ. Pourquoi vous fuyez votre pays?
On fuit à cause de la réalité à Cuba.
Sachez que vous serez détenus de 1 à 3 jours. Si vous avez un téléphone, appelez votre famille maintenant, car quand les agents arriveront, vous ne pourrez plus téléphoner.
Nous les appellerons Rosa et Mia. Voilà plusieurs mois que les deux Cubaines, dont l'une est enceinte, sont entrées au Mexique avec leurs enfants. Elles ont suivi la procédure en ligne pour demander l'asile aux États-Unis via l'application mobile CPB One, en vain.
Non,
ça fait 5 mois qu'on attend un rendez-vous. Rien ne vient alors qu'on est avec des enfants. Ils n'en peuvent plus, ils ne vont plus à l'école depuis un an. À part ça, on n'a eu aucun problème avec la population. Les gens sont gentils, ils me conseillent de faire attention quand ils me voient avec mon ventre. Mais certaines personnes en profitent et pensent que nous avons beaucoup d'argent parce qu'on a fait ce long voyage coûteux. Ils nous volent ce qu'on a mis tellement de temps à récolter.
Agitées et en pleurs, les deux femmes racontent un séjour au Mexique marqué par la violence des gangs, mais aussi par celle des autorités.
Cette fois, c'était des policiers. La première fois, des bandits armés, c'était quand on est arrivé dans le pays. Comme ils nous ont tout volé, on a dû passer un an au Mexique.
Il fallait bien qu'on récupère tout l'argent volé. Ils se moquent qu'on soit avec des enfants. Pourtant, je leur ai dit, regardez dans quel état je suis, regardez mon ventre, je vais avoir un bébé.
Beaucoup de gens mettent leur argent sur leurs enfants. Moi, jamais je ne ferais ça. Ceux qui nous ont attaqués, ils savaient où chercher l'argent. Ils m'ont pris mon portefeuille. 100 dollars, c'est tout ce que j'avais. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez. Ils me disaient d'arrêter de mentir et qu'ils allaient appeler la police de l'immigration. Je les suppliais de ne pas faire ça, de penser aux enfants. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Personne.
L'histoire de Rosa et Mia et de leur famille raconte la faillite du système de protection des réfugiés au Mexique comme aux États-Unis. Leur visage à nouveau se fige. Un pick-up vert et blanc vient de pointer son nez derrière nous. C'est la police aux frontières. Les deux femmes retrouvent leur calme. Elles embarquent direction un centre d'accueil de Yuma.
Vous parlez beaucoup, mais je préfère que vous parliez.
Retour à Nogales, côté mexicain cette fois. Un groupe de jeunes haïtiens plaisante tout près d'un immeuble d'habitation. C'est ici que César, originaire de Port-au-Prince, attend de pouvoir passer la frontière légalement. Il a pris rendez-vous sur l'application CBP One, objectif, rejoindre sa mère en Pennsylvanie.
J'aimerais pas que mon fils ou ma fille grandissent dans cette insécurité qu'il y a dans mon pays.
Donc là, vous avez rendez-vous demain ?
Rendez-vous demain, de bonne heure, à 6h30.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Pour moi, c'est l'anxiété. C'est la joie et l'anxiété. Parce que c'est une vie toute nouvelle. Et vous ne savez pas ce qui va vous arriver, ce qui vous attend. C'est comme recommencer à zéro.
À plus de 1000 km de là, la cuisine du Chouet Laitière Sushi prépare le service de midi. Au fourneau, chef Jadim, une réfugiée birmane.
Right now is the Burmese specialty food.
Ce midi, nous préparons 25 commandes. Je propose des spécialités birmanes accompagnées de riz gluant. C'est tout nouveau dans l'Utah. Je veux faire découvrir des recettes traditionnelles de chez moi.
Le restaurant a bénéficié du soutien de l'International Rescue Committee, une association qui vient en aide aux personnes victimes de persécutions ou fuyant la guerre. Dans la halle flambant neuve au cœur de Salt Lake City, capitale de l'Utah, se côtoient des cuisiniers vénézuéliens, irakiens, somaliens. Pas si étonnant, nous explique Emily Park, la responsable du programme Spice Kitchen de l'International Rescue Committee.
C'est vrai, l'Utah, c'est une terre conservatrice. La population locale est incroyablement réceptive pourtant aux réfugiés et aux immigrants parce que la religion prédominante, l'Église mormone, a des missionnaires partout dans le monde. Donc on accueille favorablement ces différentes cultures. C'est plus difficile de détester quelqu'un quand on partage un repas avec lui. Vous apprenez à le connaître, vous vous ouvrez, il vous fait moins peur. Malgré l'incertitude politique, je pense que nos entrepreneurs et la communauté qui les entoure désormais ne seront pas affectés.
L'initiative revêt un sens particulier à l'heure où un ancien président, candidat à la Maison-Blanche, a accusé les migrants d'empoisonner le sang des Américains. Mais ce discours raciste porte et laisse des traces. Plusieurs sondages révèlent désormais que l'immigration est citée comme le problème numéro un par les Américains sondés, devant le gouvernement et l'état de l'économie.
États-Unis-Mexique, la frontière éternelle en jeu électoral. Un grand reportage d'Abla Jounaïdi et Julien Boileau. Réalisation Eva Piedet.